Par là.
C'est la loge où j'étais, ça. C'était la loge où j'étais. Jacques Joseph. Ah, oh là. La loge. Tu sais qu'elle a changé?
Oui.
C'est qu'elle n'était pas du tout comme ça. Vous avez poussé ça jusqu'au produit de maquillage?
De démaquillage, ouais.
Ouais. C'est drôle. Hein. C'est incroyable. C'est beau.
Jacques Higelin.
C'est la grandeur du clown de faire rire des tas de gens sans que l'on ne voit jamais son vrai visage. Car si on le voyait, ce ne serait pas sûr qu'on rirait.
Ça, c'est vrai. Du clown, j'ai vu... D'abord, je l'ai été une fois, par hasard. Une ou deux fois. J'avais un copain clown qui m'a dit, écoute, il y a mon Auguste qui est tombé malade. Et est-ce que tu veux... J'ai un spectacle dimanche prochain. Est-ce que tu veux venir? J'ai dit, bah oui. En plus, ça me plaît. Et il m'a montré les sketchs. Et puis j'ai chaussé les grandes godasses. Je me suis maquillé. Hein. Il m'a maquillé en clown. M'a montré. Et c'était extrêmement plaisant. Parce que j'ai joué devant les enfants. Moi, j'étais pas connu non plus à cette époque-là. Je jouais dans les cafés-théâtres et tout. J'ai pas... Toi, c'était au tout début, un peu après l'armée. Hein. Et je me suis régalé, comme je jouais un peu de l'accordéon et tout, j'ai pris un accordéon, j'ai joué les morceaux de clown. Et puis il y avait des sketchs très naïfs, très, très bien, quoi, tout le monde marchait. Et ben c'est génial, parce que tu disparais, voilà, puis t'as une démarche différente, et puis tu changes la voix et tout, c'est génial à faire ça.
Est-ce qu'il y a un risque si on démaquille le clown?
Je vois pas ce que ça changerait, parce que... comment pourrait être... J'ai l'impression d'être le même, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas ma vie d'un côté, et quand je rentre en scène, ce serait une autre personne, tu vois. J'ai jamais pensé comme ça. Et d'ailleurs, si j'ai quitté le théâtre et pas plus envie de faire du cinéma en tant qu'acteur, si j'arrêtais d'être comédien et acteur, c'est pour devenir acteur et comédien de ma propre vie. Ce qui est pas pareil, quoi. La nourriture est pas la même. J'attends pas d'un... Il y a une autre époque où j'ai été comédien et j'ai pas trop aimé ça, quoi. Et je jouais un personnage et après il fallait que tu te démaquilles et que tu sortes de ce personnage pour retourner la vraie vie. Et c'était toujours pour moi extrêmement pénible. J'avais hâte d'effacer tout le maquillage et j'avais hâte de retourner dans l'existence, quoi. Mais c'est peut-être parce que je jouais pas les choses que j'écrivais, quoi.
Une production des radios francophones publiques.
Jacques est un très très bon comédien. Vraiment. Voir un bon acteur, je sais pas jamais vraiment bien les différences, mais il est très bon, il a une capacité d'improvisation incroyable, il est aussi très présent dans son corps, quand il vient, il est vraiment là, quoi. Quand il joue la comédie, il est vraiment dans ce qu'il fait, ça, c'est assez exceptionnel. Et il joue pas assez, il joue pas beaucoup, enfin il joue, il aime, il interprète, c'est un interprète, un vrai, dans le sens large, donc il peut interpréter n'importe quoi, voilà. Donc, y compris des chansons de Jacques Higelin.
Y compris les chansons de Jacques Higelin.
Ah oui. Je crois pas qu'il ait vraiment besoin d'un metteur en scène quand il fait ce qu'il fait probablement le mieux, c'est Jacques Higelin. Le Jacques Higelin. Je pense pas qu'il ait besoin de qui que ce soit pour faire ça. Du tout. On peut peut-être l'aider à avoir un regard sur les lumières, sur quelque chose, je sais pas, sur tout ce qu'il y a autour, la couleur du costume, l'emplacement de la guitare sur scène. Mais pas...
Ken Higelin.
Lui donner non, je crois pas. Lui donner des indications de jeu quand il fait ses spectacles, non, pas du tout. Ça, il a déjà essayé. Il y a eu des gens qui sont venus l'aider, mais finalement, il servait pas à grand chose dans la mesure où il est plus doué pour se mettre en scène que n'importe qui d'autre. En revanche, s'il devait faire une pièce de théâtre ou un film, je crois qu'il est tout à fait. Enfin, il est voilà, il se met au service de, il interprète. Il ne se placerait plus que dans la position de l'interprète. Enfin, j'en suis à peu près persuadé. Puis il l'a fait, il n'y a pas si longtemps.
Réalisation Dominique Martineau Lagarde.
Il joue pas un personnage, il est le personnage en même temps. Au moment où le terrain était plein de ronces, de genêts et autres, il m'a aidé de temps en temps, et puis de temps en temps, il s'arrêtait au bord des larmes en disant « Mes pauvres doigts, je vais plus pouvoir jouer de la guitare ». Et c'était à la fois la fatigue, la rogne contre les ronces, mais c'était aussi, effectivement, c'est tout en même temps. C'est à la fois un jeu, à la fois c'est vrai, c'est la réalité, et c'est le personnage qui est multiple.
Sur France Inter.
Tu serais l'ange et moi, le diable, deux amants, charme impie, toyable, l'un et l'autre, la proie d'un mirage indicible. Esclaves et maîtres de leurs désirs, ignorant le bien et le mal.
Finalement, votre mot, le moteur essentiel de Jacques Higelin, c'est l'amour.
Il faudrait que je lui demande, mais à mon avis, oui.
L'amour ou le sentiment amoureux?
Ah, l'amour, comme disait De Gaulle, vaste programme. L'amour ou le sentiment amoureux? Ben, le sentiment amoureux, ça fait partie de tous les états amoureux, de l'amour, de tout ce que secrète l'amour et de tout ce qu'il... Attends, il y a trois thèmes, la vie, l'amour, la mort. Bon, non, j'en connais que trois qui font marcher tout, les romans, le cinéma, les chansons, la musique, les ballets.
Le sentiment amoureux, c'est ce qu'on ressent face à quelqu'un, on est encore seul dans la relation. L'amour, on est deux.
Déjà, pour aimer quelqu'un d'autre, faut s'accepter soi-même. Donc, faut non pas s'aduler, mais s'aimer. Enfin, se respecter, quoi. Et après, l'amour, c'est très compliqué. Je ne vais pas m'avancer à donner une quelconque explication, parce que récemment, il y a quelques mois, j'ai lu un bouquin d'un philosophe qui s'appelle Roland Barthes, et qui a écrit un livre où il a tenté fragments d'un discours amoureux, tu vois. Et c'est un livre extraordinaire dont j'ai eu vraiment besoin. C'est un ami qui me l'avait conseillé parce que je partais un peu en douleur, quoi. Et je trouve que cet homme a magnifiquement parlé de la complexité, sans compliquer encore les choses, mais de la complexité, et dans tous les états amoureux, le nombre de fois où ça revient à toi-même. Tu vois, pour en fait, pas dénoncer ça, ouvrir les yeux, quoi. C'est des mystifications, mais c'est aussi désillusionner, retirer l'illusion. Parce que s'il y a un endroit où toutes les illusions prennent une force incroyable, c'est dans le sentiment, dans l'amour, quoi. Le nombre de fois où j'ai traversé, où d'autres ont traversé des confidences, où ça part dans tous les sens et où tu te dis, mais c'est quoi l'amour? Alors j'ai eu plein d'explications des autres, mais très peu de gens, en fait, m'ont répondu... J'avais demandé à Nadine Trintignant, c'est quoi? Parce que pensant qu'elle avait quand même une femme intelligente et qui est vivante et marrante aussi et pratique l'humour et qui arrive à dépasser des fois le désespoir. Et je lui ai dit, l'amour, c'est quoi pour toi? Elle avait réfléchi un peu, puis elle m'avait dit, c'est quand je me sens mieux avec une personne que quand je suis tout seul, toute seule. Et c'était monter la barre à un niveau en disant, si je me sens moins bien avec quelqu'un que quand je suis seul, je suis pas amoureuse. Si je me sens mieux quand la personne est là et que ça m'ouvre des horizons, si ça me fait évoluer vers l'autre, c'est une manière aussi de dire qu'on est seul et qu'il faut peut-être partir de ça pour pouvoir aimer les autres. Considérer que les autres ne sont pas des planches de salut, ne sont pas des planches de contact, ne sont pas des faire-valoir, ne sont pas des consolateurs ou consolatrices, ne sont pas, sont des alter-égaux, quoi. Et dans ce sens-là, l'amour devient possible dans la mesure où tu ne cherches pas ni à tirer de l'autre, ni à coller sur lui des sentiments avec lesquels toi-même tu n'as pas fait le chemin qu'il fallait pour régler ton propre compte à toi-même. Alors là, tu peux être un peu plus libre, et là, l'amour peut venir. Et plus confiant en toi-même, et donc laisser la porte ouverte, et surtout, ne pas te tromper sur qui tu rencontres. Mais ça, tu peux le faire qu'à partir du moment où tu as fait le nettoyage en toi-même.
Les accords, l'accordéon désaccordé du beau Léon, s'accorde au diapason du tourbillon des corps et du cœur amoureux. Et le cordon langoureux de leur nostalgie relie mon vague à l'âme au charme disparu des rues du vieux Paris.
Jusqu'à quel point peut-on être le héros de sa propre vie?
Sont tous les caméos.
T'es drôle. Le héros, je suis le héros de ma propre vie. Tu t'es posé la question, comment tu réponds, toi?
Mais ça, c'est une citation de vous. On doit être le héros de sa propre vie.
Eh bien, parce que c'est vrai, en fait. En fait, c'est vrai. Mais je crois que tout le monde est comme ça. Je crois vraiment que tout le monde, même la personne la plus défavorisée du monde, est l'héroïne ou le héros de sa propre vie. C'est normal. En fait, c'est très simple. C'est lui ou elle qui compte d'abord. Et ton âme habite ton corps. Donc, ton esprit et ton cœur. Le cœur, c'est plus partie du corps. Mais l'âme, anima. Chacun n'en a qu'une portion de l'âme universelle qui est traduite dans ce corps-là, cet esprit-là, ce cerveau-là, ce destin-là. Et en fait, effectivement, il est le héros de sa propre vie. Sinon, s'il se met à douter, il se suicide. Hein. Il se tue parce qu'il dit je vois pas pourquoi je vis puisque j'ai aucun... Et un mec qui siffle en plus, c'est très content. Voilà un héros de sa propre vie, un siffleur.
Pour moi, ça fait partie des gens rares et uniques qui vous font prendre conscience que chaque minute est importante, que tout peut s'arrêter dans 10 minutes, mais ces putains de 10 minutes-là doivent être belles, fortes, puissantes, et qu'on n'a pas le droit de les laisser... de les laisser couler comme ça. Tout doit être à fond, à bloc.
Cali.
Et je l'imagine comme ça. Je l'imagine fougueux dans tous ses actes de vie, quoi. Parce que voilà, quoi. C'est le plus haut, voilà.
Gilles, c'est un grand amoureux de la vie.
Rufus.
Il a une générosité incroyable. Il a donné à tout le monde, à tous les gens autour de lui, les hommes, les femmes, son cœur. En permanence, quoi. Plus de vie, plus de rire, plus d'invention, plus de décontraction, plus d'humour, plus de danse.
C'est étrange parce que il est à la fois
Dominique Mahut
complètement foutraque et en même temps il a une obsession du rangement et du classement. Et... J'ai souvent voulu lui offrir un livre de Pérec qui s'appelle Pensée et classée. Et il aurait une espèce d'obsession de noter absolument. Il veut repasser par tous les moments où il a pris des notes comme ça. Alors on écoute des trucs complètement abscons, des fois pendant une heure et demie, on l'entend marmonner dans un bistrot, dans un taxi. Toutes les 5 minutes, il demande l'heure parce qu'il a besoin de savoir exactement à quel moment il a fait ça. Mais ça n'a aucun sens parce que. Mais ça en a un pour lui, quoi. Il veut savoir l'endroit, le temps qu'il fait, la date. Il est obsédé par savoir la date alors qu'il ne sait jamais quelle journée.
Il m'a appris la générosité, il m'a appris que la sincérité, c'est ce qui paye le plus auprès du public.
Éric Serra.
Que plus on est sincère, plus ça passe. Il m'a appris que le public est beaucoup plus sensible et intelligent que certains veulent le croire. Et quand on est sincère et spontané, ça se sent, quoi. Les gens sont ravis.
Il a toujours tendance comme ça à imposer sa mesure, à imposer son temps. Et puis,
toujours, oui, bien sûr. Oui.
Si on rentre et on le suit, tant mieux. Et puis si on ne le suit pas,
tant pis, on est largué, oui. Oui. Mais bon, c'est formidable
c'est un
d'avoir.
C'est contradictoire parce que en même temps on parle d'une immense liberté, oui. Mais en fait c'est une immense liberté qu'il impose littéralement aux autres.
Ah, c'est très très tyrannique, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Ben oui, mais ça c'est le fantôme de la liberté. Enfin, c'est quoi la liberté, quoi? La liberté sans contrainte. On a toujours. Si on n'a pas de contraintes, on peut pas se débattre et trouver la formulation et trouver la formule de la liberté, quoi. Si on n'a pas un cadre qu'on veut faire exploser, quoi.
Bien sûr, c'est un type hypersensible qui peut changer.
Pierre Goupil.
À la minute, qui peut faire des colères, qui peut faire la diva, qui d'un seul coup peut être tout à fait adorable. Ça fait partie de lui-même, ça fait partie. Et à la fois, il a pris un métier où ça fait aussi partie de son métier. Donc, il peut prendre des colères épouvantables parce que le guitariste n'a pas fait l'accord qu'il fallait. Et puis après, l'entourer de ses grands bras en lui disant « Mais j'étais un peu en colère, c'est rien. » Mais effectivement, il est soupaulé en plus, oui, c'est sûr.
Vous ne doutez jamais ? Ah, je doute toujours.
C'est même important.
Ah, c'est très important. C'est un moteur de travail de douter. Je doute toujours, c'est pour ça que je me dis peut-être, peut-être pas. Mais je ne doute pas de tout. Je ne doute pas de mon amitié pour quelqu'un. Je ne doute pas de l'amour partagé. Je ne doute pas ça. J'ai confiance là. Mais après, c'est des doutes peut-être, mais ça c'est la balance, je suppose. C'est un peu plus fort chez moi que chez un autre. Je sais pas. Mais le doute, c'est quelque chose qui me permet de... C'est marrant parce que j'ai lu une phrase l'autre fois et tous les gens qui sont vraiment prétentieux, tu sais, tu les vois et tu dis « doute de rien ». Tu vois, et ils sont... Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment les abrutis. Tu sais, ces mecs-là qui roulent en grosse bagnole, ils sont sûrs d'eux, quoi. Ils sont contents d'eux. Encore que je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais... Apparemment, pour eux, c'est pas long de faire un choix, quoi.
J'ai l'impression que les chemins de traverse, ça oriente un petit peu toute votre vie, ça. Et que dès qu'il y a un chemin de traverse possible, vous auriez plutôt tendance à emprunter le chemin de traverse-là, parce que le chemin qui est tout droit, il y a de fortes chances qu'il y ait 3-4 gars là, qui attendent pour...
Mais j'ai appris très vite dans ma vie l'avantage d'avoir des chemins de traverse, des voies secrètes, des passages secrets... des choses qui te font échapper au dictat des autres. Je ne critique pas l'autre puisque j'en suis un pour les autres. Je suis un autre. Et c'est ça qui est très marrant quand tu rencontres les gens. T'as beau... Tu vois, il y a un truc terrible dans le boulot... Enfin, le boulot. J'ai horreur de ce mot-là, ça correspond tellement peu. Mais pour les gens, le boulot que tu fais, t'es artiste. Alors, t'es riche. Ou alors, t'es... Oh ben, ça doit quand même... Toi, tu dois te marrer. Ah, puis les filles, ça doit y aller. Puis je sais pas quoi, t'entends quand même des tas de réflexions. Maintenant, ils se sont calmés parce que je suis plus vieux et qu'ils ont vu que j'étais pas comme ça. Bon. Mais au bout d'un moment, il faut longtemps pour faire un artiste qu'on reconnaît. Tu sais, il faut 30 ans. J'avais calculé un jour. J'avais vu ça pour découvrir d'abord, pour ensuite l'accepter et ensuite... avoir le respect de dire « Ah, c'est quelqu'un qui compte, quoi, parce qu'il est toujours là et il s'est pas trahi. » T'es sous le regard des autres. Mais ce qui est très marrant, c'est de voir ta photo dans une rue. Ça me fait toujours marrer ou des fois, ça me terrifie. Tu vois, la photo d'Amor de Lorosso, je l'avais fait à l'époque où j'allais pas trop, où j'étais à Amor de Lorosso. Et la photo qu'il a prise dans un bois, d'ailleurs, à Chevreuse... j'ai l'air tellement traqué. J'ai toujours dit à ma mère, mais regarde la gueule. On dirait un mec, on va le frapper, on l'a frappé, ou il va pas bien, quoi. Et il est sur la défensive, il serre le col parce qu'il faisait froid. Et en fait, j'étais mal réveillé aussi, j'avais pas envie de faire de photos. Et à chaque fois, tu te vois comme ça et tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est moi. Tu vois, mais l'image que t'as dans le regard des autres, tout ça, et tu sais que c'est pas toi. Je sais pas, c'est pas toi à ce moment-là, quoi. Mais bon, ça, c'est le problème particulier des gens qu'on reconnaît.
Que vous préfériez toujours les chemins de traverse?
Ah, c'est très important. Parce que c'est par les voies inhabituelles, c'est par les... tu sais, c'est comme tu serais poursuivi et tu tenterais d'échapper aux gens. Je dis pas que c'est pas un truc psychanalytique non plus. Des fois, je marche tranquillement et je suis pas poursuivi et pourtant, je prends un chemin de traverse. Les chemins de traverse sont les chemins non usités par tout le monde. Donc, tu as plus de chances en bifurquant dans un endroit qui te paraît, quitte à te retrouver sur la même route en faisant un détour, à te retrouver même dans un bois où tu te promènes, tu dis, tiens, il y a une voie là, tout le monde doit la prendre, doit. Et puis, en fait, si tu tournes, tu arrives dans un endroit où personne pratiquement ne va. Et tu as plus de chances de faire de découvertes en prenant des chemins de traverse. Ou des chemins secrets, ou des endroits où il y a une porte rouillée, où quelqu'un dit « Ah, mais on n'ouvre pas, on sait ce qu'il y a derrière, il y a un puits, où il y a... on ne sait pas d'ailleurs, mais c'est un endroit dangereux, c'est condamné depuis longtemps, il y a bien une raison. » Et en fait, tu forces cette porte, tu rentres dedans, ça grince et tout, et puis au bout d'un moment, tu découvres un truc dont personne ne voulait plus entendre parler, quoi. Et c'est important.
Je me souviens d'un plateau désert. De hautes montagnes. Où la froide majesté des pierres. Me rendait heureux. Vers les sommets drapés de lumière, s'envolait mon âme, et j'écoutais battre dans mes veines. Le rythme éternel. Des battements de mon cœur.
Vous savez, ça, heureusement qu'il est comme ça. Parce que s'il était tout le temps comme il est sur scène, je crois que les gens l'auraient déjà enfermé ou qu'il y aurait eu quelque chose déjà. Non, non, il est tout à fait différent dans la journée. Moi, je respecte beaucoup ça. Dans la journée, quelquefois, je le vois, ça va, comment vas-tu, on se fait la bise, et puis, il dit pas un mot.
Hein?
À plus, au revoir, à plus. On se revoit 3-4 heures après ou 5 heures après, c'est tout.
Il y a des moments de silence ou de où il a envie d'être seul, mais ça je le ressens, il n'y a pas besoin qu'il. On le ressent dans la famille, on n'a pas besoin qu'il nous le dise ou quoi que ce soit. Et puis il y a des moments où il est là, il est très affectueux, la main autour du cou, mon frère, il m'appelle mon frère, voilà, et c'est comme ça. Mais, des moments, moi je le connais assez maintenant avec ces petites rides qui sont entre ses deux yeux sur le front, qui se plissent. Bon, il a envie d'être seul. Et où il pense, où il a des problèmes, mais je ne veux pas lui demander ses problèmes parce que d'abord il ne les dira pas. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il veut se réveiller un matin avec la tête dans le sac, comme on dit, parce qu'il a des soucis de tout ordre, et puis voilà.
Il y a une face cachée.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a un côté pudique qu'il garde pour lui.
C'est marrant. Entre deux frères, Jean Témir et Taoubi et Zalim, il peut y avoir trois avis différents parce que c'est des êtres entiers. Et Taoubi, c'est juste ce qu'il dit. C'est marrant ce que tu fais là. De me passer des gens très proches finalement. Et c'est très drôle de voir comment de l'un à l'autre, c'est un autre rapport. C'est formidable les rapports qu'on peut avoir différents avec différentes personnes qu'on aime et qui sont tous différents les uns des autres et qui te perçoivent. C'est incroyable, quoi. J'avais jamais entendu ça me concernant, quoi. J'ai entendu concernant les autres.
Il y a une pudeur qui existe chez lui. Et il y a la preuve, c'est que on n'a jamais abordé le problème de sa famille. Parce que s'il a envie d'en parler, il en parle. S'il n'a pas envie d'en parler, c'est pas moi qui vais lui poser des questions. Donc, effectivement, il a une retenue et une pudeur pour certaines choses qui le touchent. Et que même en étant très proche de lui, on n'est pas forcément au courant.
Ouais, il a sans doute la tête dans les nuages, mais il a aussi les pieds un peu sur terre, il a besoin de se ressourcer, comme tout le monde. Vraiment comme tout le monde. Là, pour le coup, c'est un être humain, hein. Ni plus ni moins.
Encore, chez nous, quoi, on se confie pas facilement. On garde beaucoup nos soucis, nos problèmes pour nous. C'est peut-être une espèce de pudeur, on n'a pas envie d'embêter les gens avec ça, donc on les garde pour nous. Voilà, et des fois je le vois sur la plage, il se met dans un coin et puis il est tout seul et puis il regarde la mer et puis voilà, il est tout seul avec lui et où il compose, où il pense, où il est, je sais pas, mais c'est son truc. Et puis après il revient, au moins un coup, youpi, tout va bien, et puis à un moment on part sur des blagues, voilà, et puis il revient et puis après il repart. Mais c'est son côté poète, voilà, parce que c'est... Jacques est un grand poète, ça c'est sûr.
À mon sens, il exprime déjà suffisamment, de par la scène, de par la chanson, de par son comportement, de par les autographes, etc. Donc ça doit même être une nécessité de garder une part de lui-même pour lui-même. Sinon, il s'éparpillerait complètement.
Les reproches, il le sait très bien. Quand c'est justifié, il n'y a aucun problème. Si c'est pas justifié, je me fais engueuler, puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais je ne suis pas du public, je suis une partie de lui comme il est une partie de moi, dans le sens où on a été trop proches l'un de l'autre pendant longtemps pour qu'il y ait une dissonance par rapport à ce qu'il fait. Si ça ne me plaît pas, je dis ça ne me plaît pas, mais ça n'implique pas, ça n'implique aucune fâcherie. Ça.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est honnête, Pierre ? D'un coup, je réalise à quel point il a été mon père. C'est marrant parce que je disais tout à l'heure un grand frère, mais comme diraient les rappeurs, tu sais, ils disent c'est le grand frère. Mais Pierre, il a été hyper honnête avec moi. Hyper honnête. Comme on souhaite vraiment que quelqu'un soit avec toi, quoi. Quand t'es ado et que t'es perdu. J'étais perdu à 17-18 ans, j'étais vraiment perdu. Mais Pierre a été... Ouais, c'est comme... D'un coup, il me revient une phrase très vite, ça paraîtra tellement con et cato. C'est « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », quoi. C'est comme les mecs sur qui tu peux compter, vraiment.
Est-ce que votre guitare est encore affûtée? Ah.
C'est une arme pacifique, tu ne tues pas quelqu'un avec une guitare. Quand tu joues une note de guitare, à moins que tu aies un ampli de 300 000 watts et que ça devient... Tous les guitaristes pendant une époque y ont pensé, on va faire un mur et on va faire justement défoncer tous les murs avec un mur de son, quoi. Mais la musique ne peut pas tuer les gens. Ou alors c'est une arme de guerre, quoi. Donc c'est musique guerrière, il y en a. Mais est-ce que ma guitare est un fusil?
Je veux dire, est-ce qu'il y a encore des combats derrière?
Mais bien sûr,
le Jacques
Higelin
qui fait des chansons, qui raconte, qui veut s'exprimer, qui veut convaincre les autres d'une quoi? D'une vérité?
Ah, moi j'aime pas le mot convaincre. Parce que vaincre les cons, tu vois, ça va. Convaincre, non. Mais tu peux donner une impulsion. Je n'essaie pas d'emberlificoter, de confondre les pistes. Mais il y a des moments où il faut être vraiment ferme, quoi. Parce que ce qui menace les gens, ce qui nous menace, moi y compris, et ce qui menace nos enfants, ce sont des choses très précises, quoi. Et dans ces moments-là, il faut être dur et convaincu soi-même de ce qu'on dit pour le faire passer aux gens et leur dire aussi que devant ça, on ne va pas collaborer et on ne va pas s'écraser. Mais c'est une toute autre démarche. Je ne prétends pas leur donner les...
On les invite quand même à ne pas collaborer.
Ben oui, bien sûr. Mais je suis d'accord. C'est comme dans Alerte les bébés. Je le reprends et je l'ai mixé d'ailleurs avec Crocodile. Parce qu'à un moment donné, les deux vont très bien ensemble. Donc j'ai mixé dans Crocodile en public une partie du texte de Alerter les bébés qui est « J'ai vu un jour 100 000 enfants serrés dans leurs poings ». Et c'est vrai, en plus j'ai vu les étendards de l'amour révolter et chanter la naissance d'un peuple qui part à la conquête de son esprit de vie. Le vent des espaces nouveaux dansait dans leurs cheveux et leur voix faisait trembler les murs de Babylone. Comment veux-tu que l'espoir capitule et qu'on retourne après ça jeter en pâture aux chacals et aux requins cette énergie sauvage, ce pur élan de vie, ce cri de rage? Et si tu me poses la question de savoir si j'ai mis un linceul et si j'ai mis tout ça dans un tombeau, bien sûr que non, et jamais jusqu'à mon dernier souffle, jamais. Je peux des fois prendre du recul, me reposer, reprendre mon souffle dans la solitude parce que c'est nécessaire et parce que je veux pas du tout être embrigadé par qui que ce soit. Mais si il faut de temps en temps intervenir et intervenir vraiment, alors Alerter les bébés, Est-ce que ma guitare est un fusil, Crocodile ou d'autres morceaux tombent à point nommé, quoi. Ou bien la fille au cœur d'acier pour si je croise des mômes qui se disent peut-être on va essayer l'héroïne et tout ça, quoi. Et tout ça n'est pas écrit en vain. Et c'est, si la question que tu me poses, c'est si je me suis rangé, je suis d'accord et que j'ai mis un linceul sur mes rêves, non. Non. Et sur mes espoirs, absolument pas. Et sur mes combats, absolument pas.
Non, moi je dirais pas qu'il y ait un sagit. Hein. Je crois qu'il est toujours dans la turbulence. Il a toujours eu le sens aigu de ce qui se passait autour de lui. Comme Brigitte, elle est capable de vous faire une description de la société, même si elle reste toute la journée chez elle et qu'elle n'entend ni la radio ni les journaux. Elle sait exactement. C'est des intuitifs, ce sont des gens comme... Jacques, c'est comme les rosiers qui sont au début des vignes. Vous savez, on met toujours des rosiers au début des rangs de vignes parce qu'ils attrapent le phylloxéra avant la vigne. Donc, on voit sur le rosier la maladie et on peut prévoir de sauver la vigne éventuellement. Donc lui, Jacques, c'est un indicateur de société. Et il ne faut pas me dire que lui, il a bougé ou changé ou évolué. C'est que ce monde dont il est le poète, un des poètes, passe par des aventures extrêmement pénibles. Là, on est arrivé dans la barbarie jamais rencontrée en ce moment. Donc il y a du boulot pour les poètes, oui, ça, oui. Pour lui, il y en a. Je voulais qu'il est d'actualité plus que jamais.
Oh, mon bel enfant, libre et prisonnier des contraintes que s'imposent les hommes et libre de les transcender. N'aie jamais peur du vide. Car c'est le vide qui t'a enfanté. Accroche-toi aux parois dures et lisses de la vie. accroche tes ongles aux moindres interstices, à la moindre infractuosité du roc.
Ils sont très drôles tous les deux, ils ont beaucoup d'humour. Et en même temps, c'est une défense.
Colette.
Parce que Crolla est un quelque sensible, très... très bouleversé par les choses qui passaient, par les gens, par le... C'était comme les clowns, hein. Les clowns sont des tristes, et des gens profondément tristes et humains. Et ils se défendent avec cette façade. Quand là, ils plaisantaient sans arrêt, ils faisaient des trucs incroyables.
À la musique du
silence. Mais c'était une défense.
C'est pour Jacques, ça l'est un peu.
Ah oui, je crois.
Aux odeurs fortes et subtiles.
Ouais, l'humour, c'est bien. Comme arme défensive. Ouais, c'est bien. L'humour, c'est l'arme des pauvres. C'est ce qu'a su Coluche, quoi. Très bien. Ça te permet d'aligner des mecs qui ont une armée, une milice, une police, enfin, et des milliers de mecs, hein, comme des centaines de milliers des fois aussi. Et ça te permet de les aligner avec juste un trait d'humour. C'est comme un laser. C'est comme Desproges, Pierre Desproges, Guy Bedos, Coluche, bien sûr, évidemment. Très populaire, Coluche, très fort, grand philosophe du... Pour moi, c'est le philosophe du 20e. On est dans le 21e, là. Du 20e siècle, quoi, puisqu'il est mort avant. C'est le philosophe, quoi. Enfin, le vrai, comme Ésope dans son tonneau, je sais pas, qui n'a aucun peur des puissants ou des... Tu vois, qui les... Paf, qui les aligne, tireur d'élite. Et là, c'est là où les mots... Parce que tout commence par des mots, hein. Faut savoir aussi ça. Le pouvoir, ça commence par du discours. Donc des mots, des phrases. Et que ces phrases, les discours d'Hitler, les discours de Staline, les discours de Mao Tse-Tung, les discours de tous les fachos, là, hein, tu vois, Franco et tout. Et ils sont très brillants sur leur podium. Et en fait, derrière, c'est pour amener les gens petit à petit à prendre des armes et à tuer. C'est des assassins, mais... Quand ils n'arrivent pas à faire les discours, ils les font écrire par quelqu'un. Et il faut toujours savoir qui est derrière. Et derrière, c'est spécial, quoi. Alors que les artistes que je connais, les humoristes, c'est eux-mêmes qui parlent.
Je prenais racine entre la cuisine et le bar, dans un état secondaire, planté comme un conifère devant ma machine à frapper les mots, incapable d'en aligner trois, sans me sentir aussitôt la proie d'une effroyable incertitude. J'avais beau me gratter la tête, réembobiner la copie cassette, ou un quatuor de pointure, ténor de l'appoggiature, martyrisait le morceau que j'avais pompé sans le savoir, agencé Bastien Bach, Vivaldi, Albinoni, et peut-être aussi à Wolfgang Amadeus Mozart.
Quand on est un artiste, un chanteur, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on crée finalement ? Un univers ou soi ?
Il y a deux choses. Il y a la chose personnelle, où tu vas à la découverte du monde, de l'univers, de tout ce qui te fascine, quoi. Donc tu es comme un enfant en éternel apprentissage. Et il y a l'autre chose où tu rassembles les gens. Et c'est une autre attitude. Il y a l'attitude, ce que tu prends de l'extérieur, du monde même, des gens que tu croises, et qui te nourrit. et que tu observes et que tu écoutes. C'est pour ça que même quand Toby disait qu'il y a des moments où je suis solitaire ou silencieux, c'est parce que j'aime pas être dérangé quand j'observe le monde ou que j'observe mes rêves, mes visions, ou bien que j'observe, j'écoute des sons, par exemple. Tu sais, un mec qui écoute des sons, un homme ou une femme, qui écoute, il n'aime pas être dérangé. Parce que, par exemple, des fois, dans des grands restaurants très grands, tu sais, des espaces très grands, il y a tout le monde qui parle. Et tout d'un coup, je ne parle plus parce que je suis en train d'écouter le brouhaha. Il y a une musique, des voix, des milliards de mots enlacés, mélangés, qui créent une musique. J'adore écouter ce bruit-là, où tu comprends pas un mot, mais tout est musique, quoi. Et puis, il y a l'autre côté qui est, qu'est-ce que tu fais de ça? Dans ta solitude, dans ton travail d'artisan, solitaire, et de poète, je sais pas comment ils peuvent appeler ça. Et après, quand tu reviens vers le monde, vers tout le monde, quelle est l'image, quelles sont les images sonores, musicales, de pensées, des visions que tu leur proposes pour tout ce travail que tu as accompli? C'est comme un jardinier de l'imaginaire. Qu'est-ce que tu visites tu vas dans le jardin d'un jardinier, tu vois des graines, et il dit là ce sera des tomates, là ce sera des haricots verts, là ce sera des petits pois, et des fleurs, des dahlias, des machins. Et un bon jardinier, tu vois rien au début, tu vois juste des plants avec une étiquette. Et il te dit, ce sera ça. Et après, un an après, ou une saison après, tu viens le voir et il te dit, ah, tu te rappelles, voilà, regarde, ça a poussé et tout ça. Puis entre-temps, on les a mangés. C'est un peu ça, c'est la nourriture. Et tu as ce rôle parce que tu es doué pour ça. C'est même pas toi qui as choisi. Tu as été choisi pour faire, parce que t'es doué pour faire ça.
C'est.
Hein?
C'est.
C'est. Quoi? C'est. C'est apostrophe EST. Oui, c'est, comme ça. T'as pas choisi, quoi. Moi, j'ai pas choisi. Quand j'étais petit, je voyais pareil que tout le monde. Et après aussi. Et maintenant aussi. Je peux pas faire de différence. Quand je me mets dans la peau de quelqu'un, je dis, bah oui, mais lui, il voit forcément autrement. Seulement, je suis doué pour l'exprimer. Voilà. Doué, c'est-à-dire qui a reçu un don. Jacques a reçu un don pour faire ça. Après, de ce don, où il fait quelque chose de positif, ou alors c'est une espèce de putain d'ordure, et il fait quelque chose de hyper négatif. Genre, il est doué pour parler aux gens, pour transmettre ses visions, mais il est dangereux, il est criminel, il est hyper égocentrique, et là, il peut envoyer des gens au casse-pipe, quoi.
Ou il pourrait rien en faire aussi.
Ou il peut ne rien en faire, et ça ne retire rien au don qu'il a reçu. Mais moi, j'irais plus loin pour l'instant où j'en suis arrivé, c'est de penser que tous les gens, toi, on est au Cirque d'Hiver, mais on pourrait être ailleurs, tous les gens qui t'entourent dans le cercle où tu es au milieu, qu'ils soient petits, le cercle ou grand, sont tous et toutes individuellement capable de faire très bien quelque chose que toi, tu seras toujours incapable de faire aussi bien. Voilà ce que je pense, pour moi, qui me sert de point de référence.
Et moi, j'aurais aimé que Prola le voit arriver, parce qu'il l'a vraiment prédit. Il a dit, ce sera quelqu'un de grand. Il lui a dit à lui aussi, il lui a dit, c'est un bon Dieu, tu seras un grand guitariste. Même meilleur que moi, enfin, il disait. Non, mais il a perçu tout ça. En très peu de temps, Crolla, il était très... Il sentait les choses, enfin.
Quel regard pensez-vous qu'il ait actuellement sur la carrière et la vie de Jacques Higelin?
Il dirait qu'il l'a toujours pressenti, enfin, qu'il savait qu'il serait un grand, il serait fou de joie. Fou. Je suis sûre qu'ils auraient fait des choses ensemble.
Oui.
Ils sont indissociables. L'un comme l'autre. Ils étaient en osmose. Je crois qu'ils sont toujours en osmose.
Jacques Higelin.
De toute façon, en m'excluant de toute histoire et en ne parlant pas de ma vie, quoi, parce que j'ai pas non plus une opinion aveugle de moi, je veux dire, je le connais, mais aussi mes peurs, mes angoisses, mes désarrois, mes faiblesses et mes lâchetés. Parce que des fois, on se regarde avec Manu, on dit qu'est-ce qu'on est lâche, et on éclate de rire, et dit qu'est-ce qu'on est menteur, tu vois.
Réalisation Dominique Martineau Lagarde. Assistant de production Julien Vanasse.
On ouvre, champagne. Ouah ! Oh, le beau beau. Oh ! T'as vu le son ?
Une production de La Première, RTBF, pour les radios francophones publiques.
Mon cher Dominique, mon cher Étienne, voici, on peut prendre le son et goûter du champagne. Mon cher Julia, ainsi les trois hommes qui m'ont accompagné dans ma difficile psychanalyse, non, voyage psychanalytique à travers le temps. C'est ça. L'univers déjà. C'est les bulles qui crèvent. Bon. Alors, mes amis, est-ce qu'il y en a assez pour vous ? À votre santé, là encore, bulles. Ce sont les bulles de Dominique. Mes amis, à la santé de ceux qui aiment, ceux qui font ce qu'ils aiment et qui y croient. Champagne.
Sur France Inter.
Ah. C'est marrant que cette boisson soit un synonyme de fête. C'est incroyable, c'est une fête du gosier aussi. Même dans la bouche, c'est un goût bien particulier, quoi. Festif, le champagne.
Révolte, oh yeah, oh yeah, oh round to turn. pompadour, au chacal et au requin. Ce pur élan de vie, oh oh oh, j'étais en pâture au chacal.
Yeah.